7-9.
Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 15 décembre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, jour J pour la vaccination des enfants les plus fragiles. Alors qu'on apprend par ailleurs que les naissances prématurées sont 2,5 fois plus nombreuses chez les mères infectées par le coronavirus. On voit ça en détail. Anaïs, après les autres titres.
Journée de mobilisation du monde de la justice pour réclamer des moyens dignes. Aux États-Unis, les questions des employés d'Amazon victimes de la tornade. Et puis, les handballeuses françaises jouent leur place pour la demi-finale du mondial ce soir.
Et les invités d'Inter, aujourd'hui à 7h50, Léa.
Le variant Omicron se propage à un rythme que nous n'avons jamais vu avec les autres variants. C'est le cri d'alerte de l'OMS hier soir. Que faut-il en déduire pour la France? On reçoit la professeure Odile Lenay, infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris, membre du comité scientifique sur les vaccins Covid-19.
Et on se retrouve à tout à l'heure, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec donc le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Vos questions dès maintenant, le standard vous attend au 01 45 24 7000.
France Inter.
Des doses de vaccins au bouchon orange au lieu du violet pour les adultes. Début aujourd'hui de la vaccination des 360 000 enfants de 5 à 12 ans les plus fragiles. Vaccins disponibles dans les services pédiatriques des hôpitaux, dans certains centres de vaccination ou chez les médecins qui recevront leurs doses à partir de fin décembre. Et comme en France, la vaccination des plus jeunes s'ouvre aussi aujourd'hui en Grèce, en Espagne ou à Berlin. Elle est déjà en place au Danemark ou en Autriche. Partout, l'espoir de lutter contre la transmission du virus au sein des familles et éviter aussi la contamination des futures mamans, car le coronavirus perturbe les grossesses, c'est désormais une certitude. Résultat d'une étude sur 250 000 accouchements à Paris durant la première vague, Alice Cachaner.
Parmi les femmes enceintes infectées par la Covid-19, les chercheurs ont trouvé un taux significativement plus élevé de naissances prématurées. 2,5 fois plus de bébés nés avant 8 mois et demi de grossesse, détaille le docteur Sylvie Épelboin, qui a coordonné cette étude pour l'APHP.
Ce qui nous soucie le plus, c'est-à-dire la grande prématurité avec des naissances entre 28 et 31 semaines et la très grande prématurité entre 22 et 27 semaines. Ça veut dire des enfants qui vont avoir des soins à la naissance avec un risque de séquelles pour la très grande prématurité.
La Covid-19 ne semble pas avoir augmenté le nombre d'enfants morts-nés. En revanche, les chercheurs ont noté plus d'infections du liquide amniotique, 3 fois plus d'hémorragie au moment de l'accouchement et davantage de cas de pré-éclampsie. Il s'agit d'hypertension artérielle, une maladie qui peut être dangereuse pour la mère et le fœtus.
Oui, ce sont des accidents graves qui vont impliquer une naissance qu'on va accélérer, soit en déclenchant l'accouchement, soit par césarienne, donc on a aussi un taux de césarienne qui est accru.
Des complications qui viennent confirmer la nécessité pour les femmes enceintes d'être vaccinées. Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français insiste sur l'importance de la dose de rappel, quel que soit le terme de la grossesse.
Le vaccin Pfizer face au variant Omicron protège globalement, mais moins. Son efficacité passe de 93 à 70% contre les cas graves. Côté traitement, nouvelle encourageante pour la pilule Pfizer après l'apparition des symptômes. Pfizer assure qu'elle réduit de 90% les hospitalisations. À 10 jours des fêtes, l'Italie, elle, renforce ses conditions d'entrée. La seule vaccination ne suffit plus. Les voyageurs, même vaccinés, sont priés de présenter un test négatif antigénique de moins de 24 heures ou un test PCR de moins de 48 heures. Les Pays-Bas ferment les écoles à partir du 20 décembre avec une semaine d'avance sur les vacances de Noël. Et puis aux États-Unis, une minute de silence observée hier par les chefs des congrès en hommage aux 800 000 morts officielles du Covid dans le pays, largement le plus endeuillé du monde. C'est comme si la population entière d'un État comme le Dakota du Nord ou l'Alaska avait été entièrement décimée.
Il est 7h04, ils ont mis de côté leurs divergences de vues. De la base au sommet de la hiérarchie, tous les acteurs de la justice crient aujourd'hui leur souffrance.
Oui, tout un corps qui partage le même constat, souffrance au travail, perte de sens, cri d'alarme parti après le suicide d'une magistrate de Béthune, puis tribune coup de poing au succès fulgurant signé par les deux tiers des magistrats français. Et aujourd'hui, ce mouvement de grève, 17 organisations appellent à des renvois massifs et des rassemblements devant les cours d'appel partout en France. Le monde judiciaire parle d'une même voix, des greffiers aux magistrats jusqu'à la Cour de cassation. C'est inédit selon Benjamin de Paris, à la tête de la conférence des présidents de tribunaux judiciaires.
On est vraiment dans quelque chose d'historique et d'exceptionnel, dans le sens où c'est sans doute quelque chose qui couvait depuis très longtemps. Et puis, il y a des effets déclencheurs qui sont parfois conjoncturels. La crise Covid est passée par là. Les juridictions, elles ont fonctionné avec beaucoup d'absents. Il y a une immense fatigue. Et donc, tous ces éléments conjoncturels et structurels réunis ont fait que, voilà, les choses se sont embrasées. Aujourd'hui, ce qui est signifié, c'était on ne peut plus continuer comme ça. On ne doit plus, pour le justiciable. Je veux dire, quand vous avez 18 affaires familiales dans une matinée, ça n'est pas possible. Les gens ont la parole 30 secondes. Déjà, même les avocats n'ont plus la parole. Dans les audiences pénales, c'est la même chose. Les citoyens ont besoin d'une justice de qualité, qu'elle soit civile ou pénale. Et pour qu'une justice soit forte, il faut qu'elle ait des moyens.
Benjamin de Paris avec Laurélie Carrive, le garde des Sceaux et l'invité du grand entretien tout à l'heure à 8h20. Mais au ministère des Finances, c'est au ministère et à Bruno Le Maire que les magistrats s'adressent aujourd'hui pour réclamer un budget bien plus ambitieux. L'audience du jour au procès des attentats du 13 novembre débutera, elle, exceptionnellement à 14h pour permettre à tout le monde de participer à la mobilisation. Audience consacrée à deux accusés, les frères Klein, présumés morts. On y revient à 7h30. Autre crise à laquelle le gouvernement doit faire face à quelques mois de la présidentielle, la crise sociale et sanitaire aux Antilles. Jean-Luc Mélenchon vient d'arriver pour une visite de deux jours en Guadeloupe avant d'aller en Martinique. Le candidat de l'Union populaire est en meeting ce soir à Pointe-à-Pitre. Il répondra à distance à l'interview du président de la République sur TF1 et LCI qui, selon lui, traverse une mauvaise période.
On entre dans un moment absolument exquis pour moi. Le président est menacé d'enlisement, de dilution. Tout son système, ça marchait très bien. Tant qu'il était confortablement assis sur la droite et qu'il en était en quelque sorte le porte-parole. Mais voilà qu'il arrive de la concurrence. Et par certains côtés, elle est plus conventionnelle et plus apaisante que lui. Vous l'avez écouté sur son interminable discours sur la présidence européenne, c'était quand même censé être son heure de gloire. Et alors il est là, on comprend plus rien au bout de 5 minutes, tout ça c'est ultra techno. Ça y est, il est tombé dans le bocal des cornichons européens. Et je me suis dit, ben si ça se trouve, tout le reste va être comme ça. Parce qu'il se croyait très malin de faire le président de l'Union européenne, le candidat et le président de la France. Mais ça fait 3 chevaux à monter. Je crains que ce soit trop. Donc voilà, je suis un peu gourmand, j'attends de voir la suite de comment il va se dépêtrer d'un truc pareil. Je vais pas faire semblant que ça me chagrine, quoi.
Voilà Jean-Luc Mélenchon au micro de Laurence Perron à Pointe-à-Pitre, la Guadeloupe, où après les émeutes du mois dernier, selon nos informations, 86 enquêtes pénales ont été ouvertes pour tentative d'homicide, attaque de gendarmerie et braquage. On se souvient de celui du local des douanes à Pointe-à-Pitre, évacué le 19 novembre, laissant l'armurerie sans surveillance. 4 des auteurs présumés ont été mis en examen hier. 2 sont toujours en garde à vue, trahis par leur ADN. À Paris, après les violences au meeting d'Éric Zemmour contre des militants de SOS Racisme, le leader présumé des Zouaves Paris a été interpellé, meneur d'un groupuscule qui réunit des anciens du GUD, des néofascistes ou encore des identitaires. Précision à 8h.
Il est 7h08, Anaïs, après le chèque énergie et l'indemnité inflation, la prime de Noël arrive aujourd'hui.
Versée à 2 300 000 ménages modestes, ceux qui touchent le RSA, les allocations de solidarité ou d'équivalent retraite, son montant n'a pas changé depuis 12 ans, 152,45 € pour une personne seule. Qui permettent surtout de payer les factures plus que les cadeaux de Noël, Lauriane Delanoë.
Catherine a froid avec ses bottines bleues et limées depuis trop longtemps.
Ça fait au moins 15 ans. La moumoute à l'intérieur, elle est déjà partie. J'ai que ça.
Avec la prime de Noël, cette Parisienne voudrait
m'acheter des bottes chaudes, si je peux me faire un petit plaisir.
Mais l'ancienne salariée d'une crèche doit d'abord régler les factures. Son allocation de solidarité spécifique ne les couvre pas.
Déjà le loyer, comme j'ai que 500 euros et que le loyer est à 600, chaque fois je suis à découvert de 100 euros. Et je me chauffe pas. Hein. Je me couvre bien à la maison et c'est tout. Il n'y a pas de chauffage. Hein. Heureusement que j'ai mes 3 enfants. De temps en temps, ils me donnent un petit billet, mais bon, il faut qu'ils payent aussi leur loyer et tout ça. Franchement, financièrement, j'arrive plus.
À 55 ans, Catherine va recevoir la prime de Noël pour la première fois de sa vie. Frédéric, lui, est installé près de Bordeaux.
J'ai 54 ans.
Il la reçoit depuis plusieurs années.
Pour une personne seule, c'est 152 et quelques. En rêvant, je vais dire qu'il aurait pu la monter à 200 euros. C'est vite dépensé. Là, j'ai à régler en retard ma facture de box, 71 euros. Comme je vais repasser créditeur, elle va essentiellement me servir à ça. Je suis continuellement à découvert, en limite de découvert sur mon compte.
Le Girondin a donc prévenu ses deux nièces pour les cadeaux de Noël. Ce sera en janvier s'il lui reste un peu d'argent de la prime et du chèque énergie.
En pleine flambée des prix de l'énergie, Bruxelles présente aujourd'hui sa révision du paquet gazier, le gaz, un quart de l'énergie consommée en Europe. La Commission propose des achats groupés pour avoir de meilleurs prix et faire des stocks. L'objectif est aussi de favoriser l'hydrogène vert et les biogaz pour respecter les objectifs climatiques. Aux États-Unis, après les tornades et la dévastation totale, la tâche herculéenne de déblayer les débris et reconstruire habitations et vies brisées. Dans l'Illinois, le toit d'un entrepôt Amazon s'est effondré, 6 morts, les secours sont toujours sur place. Et certains se demandent si le géant du commerce en ligne n'a pas obligé ses employés à travailler malgré les alertes. Sébastien Paour.
C'est le centre des travailleurs du Missouri voisin qui a rassemblé les questions des salariés de cet entrepôt de quelques 100 000 mètres carrés. Pourquoi sont-ils restés sur les lieux malgré les alertes? Pourquoi certains se sont-ils réfugiés dans les toilettes? Y a-t-il un ou des abris anti-tornade sur le site suffisamment grand pour accueillir tous les employés qui étaient sur les lieux vendredi soir? Amazon tourne à plein régime pendant les fêtes mais ne communique pas sur le nombre de salariés sur place. Des questions sans réponse donc qui alimentent les soupçons et les critiques, notamment sur la manière dont la direction a géré l'alerte, une première du centre de prévision des tempêtes 3 heures avant le passage de la tornade, une autre des services météo nationaux à 20h06, un peu plus de 20 minutes, avant qu'elle frappe Edwardsville. La porte-parole d'Amazon assure de son côté que l'équipe dirigeante est immédiatement venue sur place pour s'assurer que tout le monde se mettait à l'abri. Pourquoi alors y a-t-il des victimes, répondent les organisations de manutentionnaires, si tout a été fait dans les règles. Elles n'acceptent pas non plus que le groupe de Jeff Bezos ait demandé de revenir travailler malgré les dégâts sur une partie du bâtiment et les recherches toujours en cours. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Le drapeau malien hissé à la place du drapeau français, la force Barkhane a rendu hier le camp de Tombouctou. Après 9 ans de présence, nous serons sur place à 7h30. Elles affrontent de vieilles connaissances, les Françaises, en quart de finale du mondial de handball. Match couperet ce soir contre la Suède que les Bleus ont rencontré 2 fois à Tokyo. Et les championnes olympiques sont prêtes, Jean-Pierre Blimeau.
À l'heure des retrouvailles contre les Suédoises, les Françaises pourront au moins se dire qu'elles ont retrouvé leur attaque. 33 buts marqués contre les vice-championnes olympiques russes. C'est de très bon augure, confirme Alison Pineau, la plus ancienne des Bleus.
Sachant qu'on était déjà qualifiés, on avait à cœur de montrer un beau visage pour partir pleine de certitude pour ce quart de finale.
C'est la deuxième fois que les Françaises marquent au moins 30 buts dans ce championnat. Olivier Crumbles a d'ailleurs trouvé son équipe détendue et prête à livrer un véritable combat contre les Suédoises.
On sait que de toute façon, la Suède, c'est une très bonne équipe. C'est toujours des matchs très difficiles, mais je pense que l'ensemble de l'équipe est prête à ce combat. Ça se jouera sur l'engagement, mais aussi beaucoup sur la compétence.
Aux Jeux Olympiques de Tokyo, Suède et France se sont neutralisés en phase de poule. Les tricolores l'avaient emporté de 2 buts en demi-finale. Mais il faut remettre les compteurs à 0, prévient Béatrice Edwige, pilier de la défense française.
On va essayer de ne pas penser à ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques et surtout d'être prête, parce que c'est une grosse équipe avec de très grosses individualités. On va être sur un très très gros match.
Contre les Russes, les Bleus ont également compris qu'elles pouvaient compter sur Orlane Kanor, absente depuis 8 mois et rappelé en urgence ce week-end. Un but dès sa première tentative, la Guadeloupéenne pourrait être l'un des atouts majeurs de la fin de compétition.
Eh ben on va suivre ça. Merci Jean-Pierre Blimeau en Espagne, France-Suède, 20h30 ce soir.
Et merci à vous Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, secret d'info, enquête aujourd'hui sur les filières de passeurs.